La recherche-action est un terme au contour flou qui désigne généralement une méthodologie alliant théorie et mise en pratique en vue de chercher à modifier la réalité tout en produisant des connaissances liées à ces transformations. Elle implique, dans le processus de construction de la recherche, autant les chercheuses et chercheurs que les actrices et acteurs participant à l'expérimentation. Il s'agit alors d'éprouver une situation plutôt que de l'observer, de faire de l'intervention la possibilité d'une compréhension. Si ce terme est habituellement désigné pour décrire le travail d'actrices et d'acteurs sociaux, il apparaît que la pratique de certaines et certains artistes s'y apparente. Le processus de création contribue à modifier et par là comprendre les situations dans lesquelles les artistes évoluent. Tous et toutes travaillent à la co-construction de savoir en agissant directement dans le réel avec les actrices et acteurs du terrain d'étude devenu champ d'action. J'ai souhaité m'entretenir avec des artistes qui se réclament de la recherche-action, définir ensemble ce que pourrait être la recherche-action en art et définir ce qui en relèverait dans le travail de chaque artiste. You were loved from the
start. Le terme, on l'a utilisé au départ de façon certainement beaucoup plus empirique et un peu comme d'ailleurs il y a d'autres collègues peuvent l'utiliser en art. Je sais que par exemple à Aix, ils parlent aussi à un moment donné de recherche-action.
Pierre Baumann, artiste, chercheur, professeur des universités à l'Université Bordeaux-Montaigne, avril 2020.
Déjà, ce qui me semblait intéressant dans le terme, et puis après je raconterai plus comment peut-être le projet s'est développé, et par la bande pour essayer de voir comment, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est tout. Déjà, comme on parle de recherche-action, ce qui nous intéressait dans le terme, c'est qu'il y a action, donc finalement... ça permettait de poser quelque chose de clair, de développer une activité, et cette activité est active. Alors, sachant qu'en plus, au Canada, c'est aussi un terme qui est utilisé. Et puis après, bon, il est souvent associé, et là, c'est peut-être un travail qu'il faudrait faire dessus, mais bon, qu'on a plutôt développé de façon empirique avec cette histoire de recherche-création. Mais le terme de recherche-création me chiffonne un peu parce que... il nous place peut-être directement du côté des artistes qu'on associe à un protocole de recherche et sur le plan épistémologique, ça me semble peut-être pas que c'est pas intéressant, mais pas tout à fait exactement ce qu'on cherche. En fait, du coup, ce terme de recherche-action, c'est un terme qui est certainement intéressant. Nous, on l'a surtout utilisé comme un prétexte pour lancer des bricolages, des expériences, et que, en ce sens, c'est aussi sachant que je suis rattaché à un établissement universitaire, c'était aussi une façon de se raccorder à des terrains un peu connus qui relèvent de ce qu'on appelle la recherche expérimentale, quoi. Et donc de voir comment, à partir d'un travail, un travail sur le terrain, mais j'y reviendrai, on peut aller chercher ou faire des choses. Après, que ce soit en relation avec la recherche-création, c'était aussi une direction possible, mais qui nous raccrochait à cette question de l'artiste qui intervient dans un protocole de recherche avec les thèses en recherche-création qui se font, etc. Qui n'est pas forcément un aspect qui nous branche plus que ça, en fait, dans le cadre du projet. Et en fait, pour tout dire, je crois que quand on bosse sur le projet Moby Dick, là, c'est à la fois une question qu'on se pose, et en même temps, je pense qu'il y a une approche qui est quand même relativement empirique, c'est-à-dire que part du principe qu'on lance des activités, et puis on essaie d'aller collecter des choses, et à partir de ça, on voit ce qui se passe en quelque sorte. Ça nous a permis d'essayer de voir ce que ça engage aussi pour les plasticiens à l'université que de faire ce qu'on appelle de la recherche, quoi. Et comme ce sont deux territoires très différents, eh bien, en fait, je pense qu'on a été, ça a infléchi un positionnement que j'ai pu adopter avec la petite équipe de Moby Dick. Parce que à la fois, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir comment on peut réfléchir à cette question de la recherche en art dans un contexte élargi, par rapport aux écoles, par rapport à la création, par rapport à la place des artistes. Et puis aussi, en contrepartie, c'était de montrer aux autres collègues chercheurs qui passent leur temps à nous évaluer et à nous filer ou pas du fric, ce qu'on développe, c'est aussi une forme de recherche. Et donc, dans l'hypothèse, tout au début, il y avait quand même cette idée de se dire, est-ce qu'on peut essayer de répondre quand même aussi à ce que sont des critères de la recherche expérimentale au sens large dans le contexte académique? Donc, il y a un exercice qui a été conduit autour de ça et qui explique, par exemple, pourquoi, à un moment donné, je m'étais dit, prenons ce manuel de Frascati, qui est dans la publi à laquelle vous aviez participé avec le Labo des hypothèses, puis essayons de voir si on ne répond pas à des critères courants, en fait. Donc, il y a un travail un peu d'ordre politique, mais au sens général du terme, au sein de l'institution, qui est quand même d'essayer de voir comment on peut conduire une recherche en art de cette façon-là et qu'elle soit reconnue comme telle. Et pour l'instant, ça avance petit à petit, mais il y a encore pas mal de boulot. Et en fait, en bossant là-dessus, il y a un aspect qui s'est, à mon sens, il y a une question qui s'est posée, c'était ce qu'on produit, ce qu'on bricole, quel est le statut de ces objets-là, quoi. Et c'est notamment à partir de ce constat qu'est-ce qu'on fait que je me suis dit, moi j'ai supposé en fait que si on rattachait toujours ça à une création artistique, je me voyais toujours renvoyé dans mes cordes du côté de l'institution, c'est-à-dire qu'on me disait mais en fait c'est de la création, donc c'est pas vérifiable, c'est pas démontrable, c'est pas répétable, et c'était chiant, et ça me renvoyait dans un espace qui m'intéressait pas. Ce qui explique pourquoi, assez vite, en fait, j'ai fait une espèce de schéma très simple en me disant, si les objets qu'on produit sont des objets qui ont un autre statut, même si on utilise la créativité, si on fait de la vidéo, de la performance, des actions, enfin, peu importe, ce sont des objets qui n'ont pas la vocation à être une œuvre d'art. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du postulat, c'est-à-dire que je l'affirmais comme ça, mais ça me permettait, à mon sens, de re-réfléchir différemment au statut de ces objets. En disant, si la fonction est différente, qu'est-ce qu'on fait avec la créativité qu'on emploie dans ce contexte-là? Alors, du côté de l'institution, c'est une chose, puis même après, au sens large, quoi, comment est-ce qu'on le fait rentrer dans un espace anthropologique courant, quoi? Qu'est-ce qui fait que quand je fais la cuisine, je fais de la création et peut-être de la recherche, quoi, enfin. Donc, cette hypothèse, en fait, elle a été assez marrante, on travaille toujours dessus. C'est-à-dire qu'on se dit, ces objets sont des objets particuliers, donc je les ai appelés des espèces d'objets libres, pour voir comment on pouvait opérer avec. Alors ces objets libres, en fait, au départ, leur définition est toujours un peu fluctuante, parce que c'est quelque chose qui est en train de se forger.